C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Romain Gary, 1914-1980. Écrivain, russe puis français. Hétérosexuel, juif, gaulliste. Œuvre La vie devant soi, roman, publié sous le nom d'Émile Ajar, 1975. Personnage Madame Rosa. Adaptation, film de même titre par Moshe Mizrahi en 1977, Simone Signoret interprétant le rôle de Madame Rosa. Pièce de même titre par Xavier Jaillard en 2008, Myriam Boyer jouant Madame Rosa. Téléfilm de même titre par Myriam Boyer encore en 2010, toujours dans le rôle de Madame Rosa. Dans ce personnage en personne, je voudrais éviter deux choses qui me paraissent très pénibles quand il s'agit de Romain Gary, car elles réduisent ce qu'il peut avoir de littéraire à la psychologie et à l'anecdote. La première, c'est qu'il ait écrit son livre sous un nom d'emprunt et ait obtenu, sous cet autre nom, le prix Goncourt pour la deuxième fois. Je laisserai ceci aux amateurs de faits divers et aux questions de jeux télévisés. L'autre chose, c'est le prodigieux narcissisme de Gary qui l'a conduit à se poser des questions d'identité. Un écrivain, ça n'est pas une identité, c'est une œuvre. L'identité, il y a la police pour ça. Je sais bien que c'est une passion actuelle ou peut-être une maladie. Elle a été inoculée à notre malheureux pays par un ministère de l'identité nationale durant la présidence Sarkozy, sous laquelle toutes les digues de la continuité historique et de la décence ont cédé. La maladie a été propagée par des commentateurs névrosés qui nous harcèlent à nous demander sans cesse si nous sommes bien en règle avec nos papiers d'identité. Je ne sais pas si Romain Gary, qui était un peu foutraque, aurait apprécié d'avoir une telle descendance d'auxiliaire de police. La vie devant soi, c'est une chronique, celle de l'immeuble d'un quartier populaire et de ses habitants, principalement Madame Rosa, par un jeune français d'origine arabe. Il est à noter que ce narrateur arabe a donc été créé par un auteur juif. C'est de l'appropriation culturelle comme on en souhaite. Quelques fanatiques qui ne comprennent rien, mais alors absolument rien à la littérature, ont décidé qu'il était interdit, mettons, à un blanc, d'écrire en se mettant à la place d'un noir. Eh bien, non seulement les fanatiques ne comprennent rien à la littérature, mais ils ne comprennent rien à leurs intérêts. En tant que membre d'une minorité, je réclame, moi, que des auteurs qui n'en font pas partie imaginent des personnages qui en viennent, même si c'est avec des préjugés, au moins, ils s'en approchent, et peut-être, ils apprennent. Qui est Madame Rosa ? Pour en parler, je reçois Kerwin Speer, collaborateur de la toute récente édition des romans et récits de Romain Gary dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, édition d'ailleurs accompagnée d'un album Gary. Kerwin Speer, à quoi ressemble Madame Rosa au moment où commence le livre ?
Eh bien, Madame Rosa, c'est une vieille grenouille juive avec des lunettes et de l'asthme. C'est le portrait qui en est fait. Elle a alors 65 ans, elle pèse 95 kilos. Et le corps qui nous est décrit par le roman est un corps où se confondent les seins et les fesses. Un corps abîmé par la vie, puisque Madame Rosa vit alors au sixième étage d'un immeuble de Belleville. Et c'est avec de nombreux efforts qu'elle arpente ses escaliers et qu'elle porte elle-même les stigmates d'une existence ballottée par le siècle.
Et que fait-elle, cette Madame Rosa, dans cet immeuble ? Car elle a une espèce de métier.
Tout à fait. Elle a créé une pension, une sorte de pension de famille qui n'est autre qu'un clandé. C'est un vocabulaire qui emprunte à l'argot pour qualifier finalement un foyer dans lequel des enfants de prostituées trouvent refuge auprès d'une mère nourricière. Et Madame Rosa, passée 65 ans, continue à s'occuper de 6-7 enfants quotidiennement et à leur prodiguer les soins maternels les plus élémentaires. Parmi ces enfants figure Momo, qui est un petit adolescent qui a été confié à Madame Rosa par ses parents et qui ne sont jamais revenus.
Madame Rosa est elle-même une ancienne prostituée ?
C'est une ancienne prostituée qui a commencé à exercer ce métier, si je puis dire, d'abord au Maroc, puis en Algérie, avant de retrouver un terrain parisien. Mais passé 50 ans, elle estime que ce n'est plus esthétique. Et elle se tourne donc, elle se détourne des clients pour finalement prodiguer ses soins envers des enfants de prostituées.
Est-ce qu'on sait à quoi elle a ressemblé jeune ? Je n'en suis pas sûr, ça n'est pas dit, non ?
C'est évoqué de manière assez elliptique. Elle cultive d'ailleurs une forme de coquetterie en se souvenant du personnage qu'elle incarnait dans sa jeunesse, un personnage très féminin qui portait des habits extrêmement choyés et qui finalement n'est aujourd'hui dans le roman, tel que l'évoque le narrateur, plus que le souvenir de la jeune fille qu'elle a été. Mais elle cultive tous les dimanches cette coquetterie-là, cette coquetterie passée, en revêtant ses habits et en allant, par exemple, au Square Beaulieu. C'est un des lieux où le roman nous amène et on voit le personnage de Madame Rosa dans un espèce d'interlapse, d'attente.
Dans quel quartier de Paris est-ce exactement ?
Eh bien, c'est dans les beaux quartiers. La géographie du roman se partage entre à la fois un quartier cosmopolite, le quartier de Belleville, un quartier populaire qui fait alors l'objet d'importantes opérations de renouvellement urbain, comme on dit, et en même temps, le roman nous emmène, au travers du narrateur, le personnage de Momo, nous amène devant les galeries des grands magasins ou alors dans le 17e arrondissement de Paris.
La vie devant soi, me semble-t-il, marque quelque chose de rare chez Gary, c'est que ça n'est pas un livre à sujet. Entre Chien blanc sur le racisme aux États-Unis ou au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable sur l'impuissance masculine, il a plus d'une fois romancé le journalisme. Et là, et il me semble que c'est pour cela que c'est peut-être le meilleur roman de Gary, c'est un roman de personnage.
Oui, mais c'est un roman qui n'emprunte pas à la voie du réalisme. C'est-à-dire que ce qui fait la particularité de l'œuvre d'Ajar, et en particulier lorsqu'elle s'exprime dans un roman tel que La vie devant soi, c'est une langue et une forme d'oralité qui fait qu'on est vraiment dans une matière romanesque qui va profondément marquer le narrateur au fil de l'énonciation du roman. Et c'est ces voix-là qui font que un personnage comme celui de Madame Rosa ou comme celui de Momo continue à habiter l'esprit du lecteur bien après avoir refermé le livre.
La vie devant soi a porté un autre titre jusqu'au moment de sa mise en fabrication ou presque. Est-ce que vous voulez me raconter ça ?
La tendresse des pierres, c'est le titre que l'on trouve sur le tapuscrit, sur le manuscrit, qui a été longtemps conservé à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et on y voit, au fil de la plume, l'écriture de l'écrivain en train de se former, portant ce titre, La tendresse des pierres. La tendresse des pierres, c'est aussi un titre que l'on retrouve, non pas sur les rayonnages des bibliothèques, mais dans l'œuvre elle-même de Romain Gary, avec ce personnage d'Adieu Gary Cooper, Jenny, qui écrit elle-même un titre, un livre portant le titre de La tendresse des pierres. Et c'est cet oubli, cette omission, volontaire ou non, du romancier Gary, se retrouvant sous la plume d'Émile Ajar, qui a failli mettre au jour la véritable paternité de l'œuvre. Mais alors que les épreuves étaient déjà composées, à la dernière minute, le romancier s'est aperçu, a été mis en garde par ses proches.
Je crois que c'est Cournot qui travaillait au Mercure de France qui s'en est rendu compte.
C'est l'épouse de Paul Pavlovitch qui incarnait le personnage d'Émile Ajar, Ali Pavlovitch, qui a alerté Romain Gary sur cette présence, cette mention de l'œuvre de Gary au sein même d'un roman signé Ajar.
Car ça aurait été un indice qui aurait pu le faire découvrir, c'est ça ?
Ça aurait été un indice parmi d'autres qui aurait pu...
Parmi d'autres ?
Parmi d'autres, puisque lorsque l'on a une lecture attentive de La vie devant soi, on se rend compte que, par exemple, la paternité hugolienne du roman renvoie également, ni plus ni moins, à La promesse de l'aube. Entre Villeneuve, qui est évoqué dans un roman comme La promesse de l'aube, c'est-à-dire la Jérusalem du Nord, la ville cosmopolite de métissage, où un jeune adolescent, s'appelant Roman, découvre finalement une réalité très dure et tente à cheminer dans le siècle, on retrouve également cet aspect-là dans le Belleville de La vie devant soi, avec un personnage féminin très important, dans un cas comme dans l'autre. Bien entendu, Mina, la mère de Romain Gary, ou Madame Rosa, la nourrice de Momo.
Alors cette Madame Rosa de la vie devant soi pourrait être pittoresque dans un goût néo-rablaisien et il y a quelque chose de plus, elle est évidemment bien plus que pittoresque, elle a des cauchemars et au moment de ces cauchemars elle descend en haletant comme elle peut, comme puisqu'elle est quasi obèse, dans une cave où elle s'est aménagé une chambre de fortune et cette cave elle l'appelle « mon trou juif ».
C'est un trou juif qui trouve son origine dans un coup de sonnette à 6 heures du matin. Un matin de 1942. Madame Rosa habite déjà Belleville et elle fait partie de ces Français naturalisés ou non, puisqu'elle était d'origine polonaise, de confession juive, qui ont été raflés par la police française, déportés au Vélodrome d'hiver, puis dans les camps de concentration. Elle a connu l'enfer d'Auschwitz et, dit-elle, depuis cet enfer-là, il n'y arrivait que des ennuis. Elle a cette forme de réminiscence qui lui rappelle que ça sonne souvent à l'intérieur, sans même que ce soit matérialisé par un coup de sonnette. Mais c'est un cauchemar qui l'habite et avec lequel d'ailleurs les enfants de sa pension joueront avec une certaine malice. C'est une part d'elle-même qui se matérialise également par la présence du portrait de Monsieur Hitler, caché sous son lit et qui va, à de nombreux moments du récit, être arboré par le personnage de Momo.
Ce qui est intéressant, c'est que ce portrait d'Hitler, elle le regarde pour se consoler. Elle se dit, il y a eu ça et ça n'existe plus.
C'est là toute la force de l'humour juif. Ce portrait de Monsieur Hitler agit un petit peu comme un repoussoir.
Ce qu'elle a de très intéressant, cette Madame Rosa, à mon avis, c'est que c'est une rescapée des camps de la mort qui en fait n'en parle jamais et que le nœud intérieur de toute sa vie c'est ce silence et qui est symbolisé par la cave.
C'est un élément qui appartient à son moi intime et d'une certaine manière, lorsqu'il s'exprime dans le roman, c'est un petit peu le retour du refoulé. C'est-à-dire que c'est une entrée subreptice qui apparaît lorsque Momo suit ses pas et découvre l'existence de cette résidence secondaire, comme dira pour s'en justifier Madame Rosa. C'est un élément central du roman qui apparaît par ailleurs dans l'œuvre de Romain Gary, par exemple cette notion de cachette qui apparaît dès Éducation européenne en 1945 pour sa version française, mais c'est un élément qui est un petit peu une ritournelle de son œuvre et qui renvoie également à une part de lui-même.
Au moment où le livre est sorti, donc je le rappelle sous le nom d'Émile Ajar, et donc on ne savait pas que Gary en était l'auteur, un critique a parlé, et je voudrais votre avis là-dessus, du livre en disant qu'il y trouvait un léger parfum d'antisémitisme. Ce qui a beaucoup blessé Gary, qui est revenu là-dessus après dans un autre livre qui s'appelle Pseudo. Est-ce que c'est une accusation injuste ou est-ce que le fait justement d'ignorer que l'auteur est juif peut laisser induire une interprétation pareille?
Non, c'est une interprétation d'assez mauvaise foi, qui est souvent qualifiée d'antisémite, parfois de raciste. Ce sont des critiques que l'on retrouve à l'égard de la vie devant soi. Je crois que pour répondre à ces accusations, si l'on s'attache à éplucher le dossier de presse que le Mercure de France conserve dans ses archives, on retrouve également la retranscription d'une émission de Radio Sénégal qui s'est tenue en février 1976 et qui explique que la force de ce livre, plus que celle de tout traité ou de tout essai, est finalement, par les voies du romanesque, d'approcher une réalité au plus près et de faire œuvre de tolérance. Et c'est en cela, ajoute le chroniqueur de Radio Sénégal, que les racistes de tout poil lui en voudront beaucoup. C'est sous cet aspect-là qu'il faut lire la critique de l'antisémitisme.
Alors il y a une chose dans Madame Rosa, c'est que c'est la seule femme de toute cette histoire. Il n'y a que des hommes autour d'elle, son monde est fait d'hommes et qui ne semble fait que pour les hommes aussi, puisque aussi bien elle a été prostituée qu'elle donnait son corps à des hommes, et que ça m'a assez frappé, dans sa petite pension, sauf erreur, il n'y a que des garçons.
C'est un personnage qui règne parmi, effectivement, une assemblée d'hommes, qu'il s'agisse du personnage de Momo ou d'autres, des enfants qui vivent avec elle, Moïse ou Banania, qu'il s'agisse également des personnages du cafetier qui assure un rôle de sociabilité forte dans le roman, Monsieur Driss. Toute cette assemblée est masculine. Toutes, hormis le personnage de Madame Nadine, qui intervient plus tard dans le roman et qui opérera comme une seconde mère, peut-être une troisième, si l'on considère que Madame Rosa incarne cette forme de maternité auprès de Momo, pour le narrateur du roman.
Simone Signoret, qui a interprété le rôle, je le disais, dans le film de Misrahi, n'avait pas, je crois, beaucoup aimé le roman de Gary et avait jugé qu'il plagiait une nouvelle de Liliane Hellman qu'elle passait pour avoir traduit, Pentimento, et qui raconte les rapports d'une vieille prostituée avec un petit garçon à la Nouvelle-Orléans. Je ne l'ai pas lu, cette nouvelle. Qu'en est-il exactement ?
Il y a des aspects qui peuvent faire penser à une réécriture de cette nouvelle qui remonte au XIXe siècle. Romain Gary était un lecteur boulimique qui s'inspirait de très nombreux éléments, de faits divers pour nourrir son œuvre, mais également, comme on l'a vu, de l'œuvre d'Hugo. Il a davantage la volonté d'écrire les misérables du XXe siècle que de plagier Victor Hugo. Quant à la paternité avérée ou non qu'évoque Simone Signoret, Diego Gary a répondu sur ce point, donc le fils de Romain Gary et Jean Seberg, en évoquant une parenté très lointaine et en réfutant toute filiation entre les deux œuvres.
Oui, et de toute façon, on peut penser que ça faisait partie aussi du type d'imagination de Romain Gary de créer ça de lui-même. C'est pas une chose extravagante, c'est pas comme si c'était mis à écrire, je ne sais pas moi, une histoire de science-fiction.
Non, et toute sa volonté a été d'ancrer ce roman dans le paysage le plus contemporain qu'il soit. Et en cela, le lecteur qui aura lu La vie devant soi en 1975 aura reconnu les très nombreuses références, les très nombreuses inscriptions dans ce contexte que le romancier a cultivé. On peut évoquer le fait divers comme cet incendie d'un foyer Salacotra à Aubervilliers qui a coûté la vie à de nombreux travailleurs africains. On peut évoquer également l'aspect social de certaines questions que l'on retrouve dans le roman, comme la question de l'IVG, ou de manière très précoce par rapport aux débats qui apparaîtront sur le sujet, la question de l'euthanasie.
Nous allons maintenant entendre un extrait du film de Moshe Mizrahi, La vie devant soi, Simone Signoret interprétant donc le rôle de Madame Rosa.
5 novembre 1966 et des poussières.
Comment des poussières ?
Je pourrais arrondir. J'ai reçu deux garçons, l'un dans un état musulman et de l'autre dans l'état juif. Tout s'explique. Je me suis trompée dans la religion.
Comment ça ?
Oui, j'ai élevé Mohamed comme Moïse et Moïse comme Mohamed. Alors, forcément, ils sont arrivés le même jour, alors j'ai mélangé, quoi. Ce qui fait que le petit Moïse, le bon, eh ben aujourd'hui, il est dans une très bonne famille musulmane à Marseille. Et le petit Mohamed, enfin le vôtre, ici présent, eh ben je l'ai élevé en juif, avec bar mitzvah et tout, et il a mangé cachère tous les jours, ça, vous pouvez être tranquille.
Comment ? Mon fils, toujours manger cachère ? Il a eu sa bar mitzvah ? Mon fils Mohamed a été rendu juif ?
Ah oui, j'ai fait une erreur, quoi. Vous savez, hein, un enfant de 3 ans, ça n'a pas une très grande identité, même s'il est circoncis. Alors, je me suis trompé de circoncis. J'ai élevé Mohamed en mon petit juif.
Kerwin Spear, il y a, avec Madame Rosa dans La vie devant soi, un personnage très important, puisqu'aussi bien il en est le narrateur, c'est Momo, ce Mohamed, qui est donc un jeune garçon recueilli par elle dans son foyer, enfin, ou dans l'appartement qui lui sert de foyer pour enfants de prostituées. Et ce Momo a une interprétation fataliste de la vie, comme souvent les défavorisés, ce qui est bien compréhensible, et avec une naïveté qui le rend tout aussi perspicace d'un sociologue, il dit des choses comme ceci, que je vais citer. Monsieur Walumba est un noir du Cameroun qui était venu en France pour la balayer. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Momo parle de Mme Rosa, mais aussi de la France et de la France de son temps.
Et c'est là toute la force de La Vie devant soi, c'est de dire une réalité sociale extrêmement violente et extrêmement dure par la voix d'un adolescent qui s'étonne de ce qu'il peut apercevoir dans le quartier de Belleville et qui renvoie à la condition immigrée dans la France des années 70.
Il parle aussi très simplement du racisme avec, par exemple, la phrase suivante. Quand ils ont 4 ou 5 ans, les Noirs sont très bien tolérés.
C'est là la force du style Ajar. C'est de mettre dans la bouche d'un adolescent des paroles qui pourraient être, si elles étaient extraites de leur contexte, absolument insoutenables. La force d'Ajar, son humour, rend la critique absolument discible et en fait, avec beaucoup d'acuité, une critique sociale.
Alors, on emploie des mots très graves, enfin d'abord des faits très graves, on a employé les mots d'Auschwitz, on emploie le mot de critique sociale, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui ne doivent pas être bien nombreux, il ne faut pas oublier que c'est aussi un roman comique et où la tendresse est enclenchée par ce comique. Il y a une autre phrase de Momo qui est très sentencieux, mais de façon très efficace et donc très comique, qui est « Moi, je pense qu'on ne respecte pas assez les vieilles putes ».
C'est là aussi la force d'Ajar, c'est l'alternance entre le tragique et le comique. Et c'est ce qui fait la rareté aussi de cette œuvre dans le paysage littéraire. L'humour est une qualité rare en littérature, et c'est véritablement la force de La Vie devant soi.
Alors il y a d'autres personnages dans l'immeuble de La Vie devant soi, des personnages secondaires et parfois plus ou moins importants. Et l'un qui est très sympathique, c'est Madame Lola.
Voisine de palier, qui incarne une humanité criante et généreuse. C'est un personnage qui est un ancien boxeur.
Sénégalais,
qui exerce également la prostitution, puisqu'elle est travestite, dit Momo, au Bois de Boulogne. Et par l'évocation de ce personnage, Gary évoque bien sûr un autre aspect de la réalité, qu'est la prostitution dans la France des années 70, mais d'une manière extrêmement attachante et sensible. Et ce personnage joue un rôle de médiateur, finalement, entre l'univers extérieur et le foyer de Madame Rosa.
C'est un cas d'appropriation culturelle tout à fait faste, comme je l'évoquais au début. Moi, je l'aime beaucoup, cette Madame Lola. Il dit « Je suis une créature de rêve ». Et puis, il fait la cuisine à Madame Rosa.
Oui. Et cette évocation d'une créature de rêve renvoie également à une notion, une ritournelle du roman, qui est la notion de loi de la nature. C'est-à-dire que Momo et que Madame Rosa se battent contre une forme de fatalité qui s'incarne au travers des lois de la nature. Et le fait qu'il y ait un changement de genre avec le personnage de Madame Lola renvoie à cette notion de détournement, de dépassement des lois de la nature par l'évocation d'un personnage de rêve.
Et d'ailleurs, ce dépassement des lois de la nature, comme vous dites, se marque aussi par la fin de Madame Rosa qui meurt à la fin du livre et qui meurt d'une manière extrêmement bouffonne, noyée dans des flots de merde, l'expression est dans le livre.
Qui confine au burlesque, puisque la fin de Madame Rosa, c'est au fond de son trou juif, grimé en clown par l'innocence d'un enfant qui cherche à masquer la déliquescence de son corps. Momo asperge régulièrement une Madame Rosa en cours de putréfaction de parfums qu'il vole et grime son visage pour en cacher les traits cadavériques.
Vous avez rappelé tout à l'heure la date du livre qui est 1975 et l'effet du roman se passe au moment de l'écriture, c'est-à-dire au début des années 70. Et la date est évidemment importante car un jeune Français d'origine arabe aujourd'hui ne décrirait probablement pas Mme Rosa de la même façon, si tant est qu'une rescapée de la Shoah survive encore. Et son auteur, juif ou non juif d'ailleurs, serait probablement amené à lui prêter des considérations sur Gaza, la Palestine, ou se contente de nous faire appeler la Nakba.
Ce sont des éléments cryptiques peut-être aujourd'hui pour le lecteur qui, en 2019, lirait La vie devant soi, mais que l'on retrouve de manière très forte lorsque l'on lit le roman au regard, à l'aune du contexte politique des années 70. On évoquait la cohabitation entre une vieille femme juive et un petit adolescent d'origine algérienne qui renvoie également à des questions politiques plus larges, comme par exemple la guerre du Kippour. Et ce sont des éléments qui hantent l'œuvre de Romain Gary et qui trouvent une réponse au travers de cette cohabitation heureuse, humaniste et presque charnelle entre deux personnages d'encre et de papier.
On sent bien dans les rapports entre Momo et Mme Rosa que Gary veut montrer une société de différence très marquée, mais où la promiscuité, si elle peut engendrer des querelles, peut aussi mener à une entente. Et ça, c'est une chose, c'est un monde humaniste de mélange et non pas, si je puis dire, un monde séparé de communautarisme.
Oui, et c'est ce qui fait également tout le paradoxe de l'époque, c'est-à-dire que la parution du livre intervient après la première campagne présidentielle qui voit la candidature de Jean-Marie Le Pen en 1974, qui ne recueille alors que 0,75% des suffrages exprimés, qui déjà instille dans le débat public cette idée que le migrant est celui qui va voler le travail du travailleur français.
Alors, en même temps, ce livre qui est peut-être d'une certaine façon, ce roman qui est peut-être plus un conte ou une féerie qu'un roman, vous le disiez tout à l'heure, réaliste, est un roman excessivement sympathique et on pourrait en faire une critique marxiste disant que toute cette féerie, cette tendresse, cette promiscuité qui crée de la proximité abolit aussi toute idée de révolte et de s'en sortir autrement que par des petits arrangements comme le font tout ce petit peuple de l'immeuble de la rue de Belleville.
La notion de révolte que l'on trouve chez Camus trouve une autre incarnation chez Gary. Et c'est là où il y a peut-être une filiation entre La promesse de l'aube et La vie devant soi. C'est que finalement, les narrateurs, dans les deux cas, sont des personnages qui se débattent face à une forme de fatalité, face à un déterminisme social et historique qui est une montagne qui se dresse face à eux. Mais par la volonté de l'imaginaire, ils réussissent personnages de Momo comme celui de Roman dans La promesse de l'aube, ils réussissent à s'insérer dans la vie et cela passe par exemple par le fait d'être adopté en quelque sorte par le personnage de Madame Nadine et du docteur Ramon à la fin de La vie devant soi.
Et puis de toute façon, Romain Gary avait bien le droit d'avoir l'éclairage qu'il voulait sur ses personnages, et cet éclairage se fait par un geste qui est peut-être le plus fréquent du roman, et ça m'a frappé, et un des mots les plus nombreux du livre, qui est le sourire. Tout le monde sourit dans ce livre, et Momo dit souvent que pour lui un beau sourire est la chose la plus enchanteresse du monde. Et Madame Rosa est pour moi quelque chose un peu comme ça, c'est un sourire au-dessus du tragique.
C'est un sourire qui appelle parfois au rire. Gary évoque dans La danse de Gengis Khan, qui est un livre qui paraît avant La vie devant soi, évoque cette idée que éclater pour éclater, la meilleure façon finalement c'est d'éclater de rire.
Kerwin Spear, que vous a appris le personnage de Madame Rosa?
Eh bien, c'est un personnage que j'ai découvert par la lecture de La vie devant soi à l'âge de 18 ou 20 ans. J'étais veilleur de nuit dans un hôtel et la lecture de chaque page arrachée à la nuit était une invitation au dépassement des limites, à aller de l'avant. C'est une sorte de viatique qui m'accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais plus encore, je crois que c'est un enseignement sur l'époque. Et me viennent à l'esprit ces paroles de Jean Daniel, écrites non pas en référence à Ajar, mais en référence à Gary, au lendemain de sa mort, le 2 décembre 1980. Jean Daniel disait « Ainsi donc un romancier vient en se suicidant de plonger, comme on dit, les lettres françaises dans le deuil. Mais c'est oublié se disant que Romain Gary est avant tout un immigré, un de ceux à propos desquels on se demande s'il faut tous les accepter, comment faire pour vivre avec, et s'ils se confondent parfaitement avec les tendances profondes du génie français. Telle est la leçon de la vie devant soi.
C'était Personnage en personne, le 81e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, prise de son Alain Joubert. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Paradis de l'autre côté de ma vie.